allègrement la loi, alors qu'il aurait dû être un exemple. Il aurait dû être un exemple pour les étrangers. Eh bien non, c'est un étranger qui lui donne l'exemple. Quel camouflet pour David. Alors, je ne vais pas en dire plus sur ce texte, c'est une histoire qui se comprend facilement, mais j'aimerais la regarder sous deux angles, si vous voulez bien. On va avancer. Le premier angle, c'est comment David a-t-il pu chuter, un homme de cette trempe a pu chuter. Et dans le but de voir, bien sûr, comment prévenir ça. Comment est-ce que David aurait pu prévenir cette chute? Et puis le troisième angle, c'est comment faire une fois que c'est arrivé? Si un jour je chute comme ça, comment est-ce que je dois faire? Alors, on ne verra pas ça aujourd'hui, le troisième point, parce que c'est déjà tard, mais on aura l'occasion d'y revenir. Alors, je voudrais m'intéresser surtout sur le pourquoi David a-t-il chuté. Alors, certains ont dit David a été persécuté quand il était jeune par Saül, donc il devient à son tour persécuteur. C'est ce qu'on a appelé le syndrome de Silverman ou syndrome de l'enfant battu. Là, vous avez demandé à des psychologues, je ne suis pas spécialiste là-dedans, mais bon, quand on est persécuté, on a tendance à le faire de même. C'est pareil, quand on a été blessé, on a tendance à blesser les autres. Et donc, selon les tenants de cette théorie, il aurait engrangé de la rancune dans toutes ces années passées au palais, et le persécuté devient bourreau à son tour par la suite. Personnellement, je ne pense pas à cette théorie, mais vous pouvez y penser parce que je n'ai pas la réponse. Je vais vous dire pourquoi je n'y pense pas, pour deux raisons. Premièrement, David était quelqu'un de différencié. Là aussi, c'est un terme psychologique. C'est-à-dire qu'il savait qui il était, qui il n'était pas. D'accord ? Ça veut dire qu'il savait faire la part des choses. Il l'a montré précédemment quand il était avec Saül, persécuté. Il aurait pu se venger plusieurs fois. Jamais il l'a fait. Il était en relation avec Dieu. Donc il était différencié. Et ça, c'est une des premières raisons. Deuxième raison, la Bible nous dit que le Saint-Esprit fut sur David lorsqu'il a reçu l'onction, maintenant et dans la suite. Donc il avait le Saint-Esprit. Il a eu le Saint-Esprit pour lui permettre de pardonner à Saül, pour lui éviter de se venger, pour aller de l'avant. D'ailleurs, quand on lit sa complainte qu'il a écrite sur la mort de Saül, de Jonathan et de Saül, eh bien, on voit toute la douleur qu'il exprime. Bien sûr, il y avait Jonathan, mais il a exprimé aussi des sincères paroles vis-à-vis de Saül. Donc, pour cette raison, je ne pense pas que ce soit cette raison-là. Mais alors, vous allez me dire, mais comment quelqu'un de spirituel, aussi spirituel que David, peut agir de manière si machiavélique? Comment est-ce qu'il peut passer de l'autre côté de la force? C'est toute l'interrogation de la saga Star Wars ou du film Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Comment est-ce qu'on peut basculer comme ça? Lorsque Dr. Jekyll devient Mr. Hyde, lorsqu'Anakin Skywalker devient Dark Vador, je sais qu'il y a des fans parmi nous, mais c'est... Je pense que c'est un peu inspiré. Spielberg, il a dû emprunter un petit peu dans ses racines juives, juivo-chrétiennes, je ne sais pas. En tout cas, c'est intéressant de réfléchir parce que ça nous concerne, nous, directement. Moi, je me reconnais dans ce Dr. Jekyll et Mr. Hyde, où je me reconnais, j'ai parfois des phases de Dark Vador. Et je pense que si David tombe à ce moment-là, c'est à cause du relâchement qui peut être propre à tout être humain. Tout à l'heure, Dino nous a parlé de l'EMO, qui est la cause de tout dysfonctionnement humain. C'est lorsqu'on détourne notre regard vers quelque chose qui n'est pas juste. On a tous en nous, je pense, cette part d'ombre dont parle la Bible, cette face sombre d'un Mr. Hyde, d'un Dark Vador. Et Paul nous l'illustre bien dans ces deux versets. Vous voyez, il dit bien en Romains 7, « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, non le pouvoir de faire le bien. » Le grand apôtre Paul, l'évangéliste, l'auteur de plus de la moitié du Nouveau Testament, il reconnaît que le bien n'habite pas en lui. Et Jérémie, c'est pas Romains, c'est Jérémie, « Le cœur est tortueux plus que toute autre chose. » Jérémie 17, 9, pour ceux qui prennent des notes. Je crois que la Bible est honnête avec ça. Il y a, à un moment donné, cette dualité, ce combat en nous. Et la Bible parle de la puissance du péché. Certes, le péché a été vaincu à la croix, mais il est encore tapis à notre porte. D'accord ? Il peut être vaincu par Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ a vaincu le péché, et en Jésus-Christ, on peut vaincre le péché. Après toute cette litanie de Romains 7, l'apôtre Paul termine en disant « Mais qui me délivrera ? C'est foutu !» Non, c'est pas foutu. Grâce soit rendue à Jésus-Christ qui nous fait triompher. Voilà. Mais il faut être conscient que la vie chrétienne, c'est pas juste une promenade de santé et on attend le retour du Seigneur. On a cette puissance du péché qui est tapis à notre porte. Et pour moi, c'est ça l'explication de l'inexplicable de David, mais l'inexplicable qu'on voit au quotidien, dans notre petite tranche de civilisation dans laquelle nous vivons. On peut citer le génocide du Rwanda, des millions de morts, le génocide des Khmers rouges, d'accord, l'affaire Gisèle Pelicot récemment, c'est inexplicable, Marc Dutroux, le pédophile, et tant d'autres. Voilà, expliquer l'inexplicable. Et ces gens-là n'avaient pas en plus le Saint-Esprit, ils n'avaient pas le Seigneur. Et puis, il y a des facteurs favorisants. On va avancer. Et c'est important à comprendre. Premier facteur favorisant, on peut se poser la question, est-ce que David était bien à sa place ? Normalement, il aurait dû être au combat avec Joab. Mais là, il est dit, David resta seul à Jérusalem. Alors, quand est-ce que je ne suis pas à ma place ? Par exemple, le soir devant un écran. Par exemple, en boîte de nuit ou dans un bar. Ou bien au cinéma, pour voir un film qui n'est pas à la gloire de Dieu. Ou bien dans un club de vacances, Club Med, pour ne pas le citer, où règne l'immoralité. Et l'oisiveté est un puissant déclencheur aussi. Alors on pense par exemple que quand on part en vacances, vous voyez, on est en train de lire la Bible là. Bon, il y a des grosses lectures à faire, parfois les gens n'y arrivent pas parce qu'ils ont des semaines chargées. Alors on se dit, tiens, en vacances, ils vont tous avoir le temps de lire la Bible. Ben non, paradoxalement, l'oisiveté des vacances n'encourage pas à la communion intime avec Dieu. Et je me souviens, quand on était à Grenoble, quand j'étais responsable dans l'église, on devait récupérer les gens en septembre, pas en très bon état spirituel malheureusement, alors que ça aurait dû être le contraire. Le relâchement spirituel, l'oisiveté, comme déclencheur. Deuxième facteur favorisant, on l'a dit, David qui se coupe de ses émotions. On vit dans une société aseptisée sur le plan émotionnel. Alors si on va au match de foot, l'exaltation, la joie, etc. On cherche des émotions fortes, des émotions agréables, mais pour le reste, on ne doit pas culpabiliser. Et pourtant, nos émotions sont des signaux du corps que Dieu nous donne pour nous dire qu'il se passe quelque chose. C'est ce qu'on dit à tous nos stagiaires de disciples émotionnellement sains, l'importance des émotions comme des signaux, des cadeaux de Dieu. Et si je me coupe de mes émotions, ça devient préjudiciable. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure, David qui sans arrêt était en relation avec Dieu, avec ses émotions, il s'est complètement coupé. C'est un peu comme un capteur qui défaille. Vous savez, vous avez des bip-bip là, derrière la voiture. Quand je me gare, bip-bip-bip, ah là, je vais toucher la voiture. Mais si les bip-bip sont coupés, qu'est-ce qui se passe ? Boum ! Je percute la voiture arrière. Ben, c'est exactement ce qui se passe avec David. Et ici, aucune émotion n'est exprimée. David devient un calculateur froid. Le troisième facteur favorisant, c'est l'engrenage des pensées et d'un premier péché non confessé. Par exemple, Jésus dira, celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère dans son cœur. Donc il a commencé par ça. Et vous savez, le péché n'arrive pas par hasard. Vous connaissez l'histoire de la petite Martine ? Non ? La petite Martine qui est un peu enrobée, il ne faut pas trop qu'elle mange de pâtisserie. Alors elle doit aller chercher du pain et puis elle a deux voies pour... Elle peut passer à gauche et arriver directement à la boulangerie ou passer à droite. Il y a une superbe pâtisserie avec des Paris-Brest incroyables. Alors elle se dit, bon, allez, je vais quand même passer, mais je ne m'arrête pas, je reste sur le trottoir opposé. Puis arriver dans la rue, bon, je traverse le trottoir, mais de toute façon, je ne m'arrête pas. Et puis arriver, bon, je m'arrête, mais de toute façon, je ne regarde pas. finalement, si, bon, je regarde, mais de toute façon, je n'entre pas. Et puis, finalement, elle rentre dans le magasin. Oui, mais je regarde juste, mais je n'achète pas. Finalement, elle achète les pâtisseries. Mais la petite Martine, quand est-ce qu'elle a péché? Est-ce que c'est au moment où elle achète la pâtisserie? Ou au moment où elle prend la décision de passer par là? Vous voyez, le péché n'arrive pas par hasard. C'est un engrenage de pensée. Et au-delà de ça, la Bible nous dit que le péché est tapi à notre porte. Dieu dit ça à Caïn, dès le livre de la Genèse. Mais toi domines sur lui, c'est-à-dire il faut une volonté active. Le péché est en nous avant tout, même si on est pardonné par Jésus-Christ. Ça signifie que n'importe qui dans cette salle peut chuter, même bien intentionné, même avec les meilleures pensées du monde, même si vous venez tous les dimanches au culte, même si vous avez été super assidu dans vos lectures, ça peut atteindre n'importe qui. N'importe qui peut chuter. Et David en est une preuve vivante. Il cède à ses pensées et puis il tombe dans un engrenage inexorable. Il dissimulation, combine, il entraîne d'autres personnes, il responsabilise Joab. Évidemment, David n'a pas porté la main, mais Joab est coupable aussi. Et puis, il finit par assassiner un innocent. Pensez donc, David, lui qui a l'habitude de garder la communion avec son Dieu, c'est David qui a écrit « L'Éternel est mon berger ». Ça aurait dû l'alerter, ça. Et la perte de la communion avec Dieu pour suivre ses pensées a toujours un coût à long terme. Ça a commencé de l'origine, c'est Adam et Ève, ils en ont fait les frais. Moïse en a fait les frais, quand il s'est exaspéré, il a frappé le rocher au lieu de lui parler. Je n'insiste pas, la Bible nous donne beaucoup d'exemples. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple. Et dans ma propre vie, quand je regarde les moments les plus sombres de ma vie, ce sont toujours des moments quand ma communion avec Dieu était distendue, comme un élastique qui s'effiloche. Et c'est pour ça qu'on encourage à lire la parole de Dieu. Il n'y a que ça. Je peux vous dire tout ce que vous voulez ce matin, si la parole de Dieu ne pénètre pas, ce n'est pas possible. Alors, qu'est-ce qu'on peut en tirer pour nous comme application? Je vous propose 5 applications pratiques. Premièrement, il faut savoir que nous avons un ennemi qui cherche à nous éloigner de Dieu et à nous faire tomber. C'est réel. Le diable est là, nous avons un ennemi. C'est pour ça que l'apôtre Pierre, on va avancer, écrit « Soyez sobres, veillez votre adversaire, le diable, c'est le nom de l'ennemi, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Il a essayé de tenter Jésus, et quand ça n'a pas marché, qu'est-ce que nous dit la Bible? Il s'est éloigné jusqu'à un moment favorable. Puis ce moment favorable, il y en a d'autres qui sont arrivés par la bouche de l'apôtre Pierre, etc. Donc nous avons un ennemi, c'est la réalité, il faut faire avec. Un jour il sera jeté dans les temps de soufre et de feu, un jour nous serons dans la gloire céleste, un jour nous allons louer le Seigneur. Mais en attendant, nous avons un ennemi et il faut en tenir compte. Deuxième application. L'apôtre Paul nous encourage à amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. D'accord ? Toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alors, Jésus-Christ n'est pas dans ce passage, d'accord ? Mais il est là en filigrane. Il est là pour montrer qu'au travers de David, qui est l'homme imparfait, c'était le meilleur que Dieu ait pu trouver, mais imparfait. Ça permet de mettre en avant la perfection de l'œuvre de Jésus-Christ. Il y a d'ailleurs une série américaine qui s'appelle « Jésus dans » et puis tous les livres de la Bible, il y a un livre par ça. Je ne sais plus si c'est Zondervan ou Harper Collins qui édite ça, mais « Jésus dans tel livre, Jésus dans tel livre ». Alors, ce n'est pas écrit Jésus, mais on le voit, il est omniprésent. Et c'est à lui que nous devons amener toute pensée captive. Alors posons-nous la question, et je me pose la question, est-ce que ma pensée, là, en ce moment, qui est en train de... Alors en ce moment, je pense à mon texte, donc je ne pense pas à ça. Mais est-ce que mes pensées sont à la gloire de Jésus? Est-ce qu'elles sont captives de Jésus-Christ? Est-ce que Jésus-Christ pourrait capturer cette pensée que je suis en train de faire pour l'amener autour de lui? Quelqu'un a dit, dis-moi ce que tu penses ou à quoi tu penses et je te dirai qui tu es. Voilà. On est tel que sont les pensées de notre âme. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur les pensées, mais je n'ai pas le temps. Troisième application. Dans quel lieu ne suis-je pas à ma place? Et j'ai envie de rajouter, avec qui? Quel lieu et avec qui ne suis-je pas à ma place? Et ce qui pourrait amener pour moi une occasion de chute. Je peux être en faiblesse. D'accord? Si je suis un ancien alcoolique, ben voilà, je ne dois pas être à proximité d'une bouteille. Et si je ne suis pas alcoolique, ben oui, je peux boire du vin, je n'ai pas de problème. Chacun s'examine par rapport à sa situation. Quatrième application, Jésus l'a dit lui-même. N'oublions pas que l'esprit est bien disposé. On a de bonnes intentions, mais c'est la chair qui est faible. Mon environnement, mes circonstances, peut-être j'ai l'esprit troublé, un esprit qui n'est pas ancré dans la parole, ça arrive. De temps en temps, je suis pris par les tourbillons de la vie, je n'ai pas le temps de lire la Bible. Alors, ce n'est pas grave si vous venez le vendredi et que vous n'avez pas lu la Bible, ce n'est pas ça qui est grave. Ce qui est grave, c'est si vous perdez la communion avec Dieu et si le diable est là pour vous tenter, pour me tenter. Tout cela peut me rendre fragile. C'est un proverbe, il y a un proverbe qui dit, on va avancer là, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, et là, l'engrenage est lancé. C'est répété deux fois dans les proverbes. Je l'ai trouvé deux fois dans les proverbes. Vous voyez, exactement le même texte. Donc, si c'est répété deux fois, c'est important. Il faut en être conscient, demander le secours de Dieu. Vous voyez, les émotions, ça joue aussi. Seigneur, là, je sens qu'il y a quelque chose, je sens que je suis tenté. Là, je sens, comme la petite Martine, que je vais prendre la mauvaise décision. Et puis là, le Saint-Esprit est là, il nous titille, il ne faut pas lui résister. C'est pour ça que Jésus lui-même a dit « Veillez et priez pour ne pas tomber en tentation ». Et enfin, dernière application, c'est l'intérêt de lire la parole de Dieu attentivement. Non pas la lire pour cocher un plan de lecture, mais pour qu'elle me sonde, pour qu'elle pénètre mes pensées. Et plus encore, méditer la parole de Dieu. Alors cette semaine, ça tombe bien parce qu'on va lire l'Épître aux Hébreux. On l'a étudié et il y a un verset particulier que je voudrais partager dans l'Épître aux Hébreux, c'est que la parole de Dieu, elle est vivante et efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Avec la parole de Dieu, on est sûr de ne pas dévier. Condition d'être ancré dans ses émotions. Et c'est ce qu'on verra donc dans un mois. Je vais revenir sur l'importance de la méditation de la parole de Dieu. Alors on avait vu aussi comment prévenir cette chute et si ça arrive, comment s'en sortir. Alors on verra que il faudra la bienveillance à David et le courage d'un ami, le prophète Nathan, pour le sortir de là. Parce que pendant un an, David va se couper de ses émotions. Et soudain, les émotions vont être réchauffées. Et puis on verra que David est un homme selon le cœur de Dieu, c'est pas pour rien. Et bien là, quand les émotions seront réveillées, il va avoir l'attitude juste. On aura l'occasion d'en reparler, parce que c'est un point vraiment capital. Le rôle de l'ami, et puis le rôle honnête de la personne qui a chuté. Ça peut nous arriver tous. Prions. Notre Dieu, merci encore pour cet exemple que tu as voulu faire figurer dans ta parole. Elle nous enseigne, elle nous instruit. Elle touche le fond de notre cœur. Seigneur, je suis concerné. Pardon, Seigneur, pour toutes les fois où mes pensées étaient impures. Pardon, toutes les fois où j'ai fauté. Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux, c'est toi l'homme parfait, tu es le nouvel Adam. Tu nous as laissé un exemple, Jésus, de ce que c'est que l'homme parfait. Comme le dit l'apôtre Pierre, tu nous as laissé un exemple afin que nous suivions tes traces. Toi qui injuriais, ne rendais pas d'injures, maltraitais, ne faisais pas de menaces, mais tu t'en remettais à celui qui juge justement. Seigneur, tu es le juste juge et c'est devant toi que nous nous courbons encore aujourd'hui. Merci Seigneur d'être notre Dieu, merci pour ce temps que nous avons passé à chanter, à te louer, à méditer ta parole. Tu es vraiment un grand Dieu. Je te demande de raccompagner chacun, Seigneur, et à parler à chacun selon son besoin. Amen.